Cependant, la journée du 5 septembre débuta par une matinée superbe. Les vapeurs du levant se fondirent à la chaleur des premiers rayons solaires. Le baromètre, dont l'aiguille depuis quelques jours marchait vers beau temps, montait encore et s'arrêtait à beau fixe. Il ne faisait plus assez chaud déjà pour que le ciel fût imprégné de cette buée tremblotante des brûlants jours de l'été. La sécheresse de l'atmosphère se sentait au niveau de la mer, comme on l'eût senti sur une montagne, à quelques 1000 pieds d'altitude, dans un air raréfié. Dire avec quelle anxiété tous suivirent les phases de cette journée, c'est impossible. Avec quelle palpitation de cœur ils observaient si quelques nues se levaient dans l'espace, il faut renoncer à le rendre. Avec quelles angoisses, même, il s'attachait à la trajectoire décrite par le soleil dans sa marche diurne, ce serait émérité de vouloir l'exprimer. Très heureusement, la brise, légère mais continue, venait de terre. En passant sur ces montagnes de l'Est, en glissant à la surface des longues prairies de l'arrière-plan, elle ne devait pas se charger de ces humides molécules que dégagent de vastes étendues d'eau et qu'apportent avec le soir les vents du large. Mais combien ce jour fut long à passer! Miss Campbell ne pouvait tenir en place, bravant l'ardeur caniculaire, elle allait et venait, tandis qu'Olivier Sinclair courait les hauteurs de l'île afin d'interroger un horizon plus étendu. Les deux oncles en vidèrent toute une tabatière de contes à demi. Et Partridge, comme s'il eût été de faction, restait dans l'attitude d'un garde champêtre préposé à la surveillance des plaines célestes. Il avait été convenu que ce jour-là, on dînerait à 5 heures, afin d'être en avance au poste d'observation. Le soleil ne devait disparaître qu'à 6h49, et on aurait tout le temps de le suivre jusqu'à son coucher.
« Je crois que nous le tenons cette fois, » dit le frère Sam, en se frottant les mains.
« Je le crois aussi, » répondit le frère Sib, qui se livra à la même pantomime.
Cependant, vers 3 heures, il y eut une alerte. Un gros flocon de nuages, une ébauche de cumulus se leva dans l'est et, poussé par la brise de terre, s'avança vers l'océan. Ce fut Miss Campbell qui l'aperçut la première. Elle ne put retenir une exclamation de désappointement.
« Il est seul, ce nuage, et nous n'avons rien à craindre, » dit l'un des oncles. « Il ne tardera pas à se fondre. »«
Ou il marchera plus vite que le soleil, » répondit Olivier Sinclair. Et disparaîtra sous l'horizon avant lui.
Mais ce nuage n'est-il pas l'avant-coureur d'un banc de brume ?
Demanda Miss Campbell. Il faut le voir. Et Olivier Sinclair, tout courant, se rendit aux ruines du monastère. De là, son regard put plonger vers l'est, plus en arrière, par-dessus les montagnes de Moll. Ces montagnes se profilaient avec une extrême netteté. Leur crête ressemblait à une ligne tremblée, tracée au crayon sur un fond d'une parfaite blancheur. Il n'y avait pas d'autres vapeurs dans le ciel, et le Ben Mor, bien découpé, ne s'empanachait d'aucune brume à 3000 pieds au-dessus du niveau de la mer. Olivier Sinclair revint, une demi-heure après, avec quelques rassurantes paroles.
Ce nuage n'était qu'un enfant perdu de l'espace. Il ne trouverait pas même à s'alimenter dans cette atmosphère asséchée et périrait d'inanition en route.
Cependant, le flocon blanchâtre avançait vers le zénith. Au grand déplaisir de tous, il suivait le chemin du soleil, il s'en approchait sous l'influence de la brise. En glissant à travers l'espace, sa structure se modifiait dans le remous du courant aérien. De la forme d'une tête de chien qu'il avait d'abord, il prit celle d'un poisson dessiné, comme une raie gigantesque. Puis il se massa en boule sombre au centre, éclatante sur ses bords, et à ce moment, atteignit le disque solaire. Un cri échappa à Miss Campbell, dont les deux bras se tendirent vers le ciel. L'astre radieux caché derrière cet écran de vapeur n'envoyait plus un seul de ses rayons à l'île. Iona, placée en dehors de la zone d'irradiation directe, venait de se voiler d'une grande ombre. Mais bientôt, la grande ombre se déplaça. Le soleil reparut dans tout son éclat. Le nuage s'abaissa vers l'horizon. Il ne devait même pas l'atteindre. Une demi-heure après, il s'évanouissait comme si quelque trouée se fût faite au ciel.
« Enfin, le voilà dissipé !» s'écria la jeune fille. « Et puisse-t-il n'être suivi d'aucun autre ?»«
Non, Rassurez-vous, Miss Campbell, répondit Olivier Sinclair. Si ce nuage a disparu si vite et de cette façon, c'est qu'il n'a pas rencontré d'autres vapeurs dans l'atmosphère. C'est que tout l'espace vers l'ouest est d'une pureté absolue. À 6 heures du soir, les observateurs groupés en un endroit bien découvert occupaient leur poste. C'était à l'extrémité septentrionale de l'île, sur la crête supérieure de la colline de la baie. De ce sommet, le regard pouvait circulairement embrasser dans l'est toute la portion élevée de l'île de Mol. Au nord, l'îlot de Staffa apparaissait comme une énorme carapace de tortue échouée dans les eaux des Hébrides. Au-delà, Elva et Gométra se détachaient du littoral, prolongé de la grande île. Vers l'ouest, le sud-ouest et le nord-ouest se développaient l'immense mer. Le soleil s'abaissait rapidement par une trajectoire oblique. Le périmètre de l'horizon se dessinait d'un trait noir qu'on eût cru tracé à l'encre de Chine. À l'opposé, toutes les fenêtres des maisons d'Iona s'enflammaient comme au reflet d'un incendie dont les flammes auraient été des flammes d'or. Miss Campbell et Olivier Sinclair, les frères Melville, Dambès et Patridge, saisis par ce sublime spectacle, restaient silencieux. Ils regardaient, en fermant à demi leurs paupières, ce disque qui se déformait, qui se gonflait parallèlement à la ligne d'eau et prenait la forme d'une énorme montgolfière écarlate. Il n'y avait pas une seule vapeur au large.
« Je crois que nous le tenons cette fois, » redit le frère Sam. « Je le crois aussi, » répondit le frère Sib.
« Silence, mes oncles !» s'écria Miss Campbell.
Et ils se turent, et ils retinrent leur respiration, comme s'ils eussent craint qu'elle ne se condensât sous la forme d'un léger nuage qui aurait pu voiler le disque du soleil. L'astre avait enfin mordu l'horizon de son bord inférieur. Il s'élargissait encore comme s'il se fût empli intérieurement d'un lumineux fluide. Tous aspiraient des yeux ces derniers rayons. Tel Arago installé dans les déserts de Palma sur la côte d'Espagne, épiait le signal de feu qui devait apparaître au sommet de l'île d'Ivitcha et lui permettre de fermer le dernier triangle de sa méridienne. Enfin, un léger segment de l'arc supérieur, ce fut tout ce qui resta du disque à l'affleurement des eaux. Avant 15 secondes, le suprême rayon allait être lancé dans l'espace et donnerait aux yeux prêts à le recevoir cette impression d'un ver paradisiaque. Soudain, deux détonations retentirent au milieu des roches du littoral, au-dessus de la colline. Une fumée s'éleva et entre ces volutes se tendit tout un nuage d'oiseaux de mer, mouettes, goélands, pétrels, effrayés par ces coups de fusil intempestifs. Le nuage monta droit, puis s'interposant comme un écran entre l'horizon et l'île, il passa devant l'astre mourant au moment où celui-ci envoyait à la surface des eaux son dernier trait de lumière. À ce moment, sur une pointe de la falaise, on put apercevoir son fusil fumant à la main et suivant des yeux toute la volée d'oiseaux, l'inévitable Aristobulus Ursiclo.
« Oh, cette fois, c'en est assez !» s'écria le frère Sib. « C'en est trop !» s'écria le frère Sam. « J'aurais bien dû le laisser accrocher à sa roche, » se dit Olivier Sinclair. « Au moins, il y serait encore. » Miss Campbell, les lèvres serrées, les yeux fixes, ne prononça pas un seul mot. Une fois de plus, et par la faute d'Aristobulus Ursiclo, elle avait manqué le rayon vert.